Donc on va commencer à la 29e lettre du Igaret HaKodesh. En fait, on a bientôt fini les lettres de Igaret HaKodesh. Dans cette lettre, l'Admour HaZaken va expliquer l'importance particulière de l'étude des Halachot. Vous remarquez qu'ici, on va travailler encore d'une importance particulière aux Halachot, beaucoup d'Halachot. Et on va expliquer dans cette lettre l'importance des Halachot, pourquoi de tout ce qu'il y a dans la Torah, les Halachot, c'est ce qu'il y a de plus important. Et pas seulement parce que techniquement, on avait fait un cours une fois sur ça, on avait expliqué que la halakhot c'est important parce que techniquement il faut savoir comment se comporter. La raison pour laquelle on étudie la halakhot, c'est pas seulement pour savoir techniquement comment il faut se comporter. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on étudie la halakhot. Il y a une communication particulière entre Hachem et la Neshama qui se passe seulement quand on étudie la halakhot. Ça se passe ni quand on étudie la Gemara, ni quand on étudie autre chose. Ça se passe particulièrement quand on étudie la halakhot. Pourquoi ? On va développer aujourd'hui. C'est une longue lettre. On sait ? C'est ce qu'on va développer. Voilà. Alors, c'est écrit comme ça. C'est écrit Eshet Ra'il Ateret Bala. C'est écrit dans Michelet que Eshet Ra'il, une femme virtueuse, Ateret Bala, est la couronne de son mari. D'accord ? Ça, c'est le pasouk. Donc, les Rachamim nous disent que c'est qui la femme, en vérité ? De qui est Shlomo Ameler quand il parle de la femme ? De qui il parle ? Il parle de la Torah. Et qu'apparemment, dans la Torah, il y a une couronne. Parce que là, on parle de couronne. On dit que la Eshet Ra'il, c'est la couronne de son mari. Alors, c'est expliqué comme ça, ce qu'on va expliquer ici. Ça, c'est expliqué dans la Gemara. Que la Gemara, Kiddushin, elle dit comme ça. Elle dit Eshet Ra'il Ateret Bala. Elle dit c'est qui le mari ? Le mari, c'est la Torah écrite. Et la Torah orale, c'est la couronne. La couronne qui va couvrir, comme la femme qui va être la couronne de son mari. Alors, la Torah orale, et plus particulièrement là, Halakha, ça va être la couronne de la Torah écrite. Pourquoi ? On va développer tout ça. Ita, Bigmara. C'est écrit dans la Gemara, Perek Dalet de Megillah. C'est écrit dans la Gemara, dans le 4e chapitre du traité Megillah. Ou Deishtamesh Betaga Chalaf. Il y a un verset dans Pirkei Avot qui dit comme ça, qui dit « Celui qui se sert de la couronne mourira. »
Mourira ?
Oui, non, mourir.
Mourra.
D'accord ? Moura. Alors, ça veut dire quoi ? C'est quoi la couronne ? Explique la Gemara là-bas. La Gemara, en reprenant ce verset de Pirkei Avot, elle explique, dans la Gemara Megillah, elle dit « Ze amishtamesh pe mishishone alachot ki trash el Torah ». Là-bas, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « C'est quoi celui qui utilise la couronne ? C'est celui qui se sert d'une personne. » C'est quoi celui qui se sert de la couronne ? On vient de commencer, ça fait deux attends, minutes.
Avec Sophie, il est dans le métro.
Ah bon, là ? Ouais. Le monde est petit. T'as quitté un si bonnet, t'en retrouves un autre. Donc explique la Gemara là-bas. Elle dit, c'est quoi la couronne ? La couronne, c'est celui qui... Ça veut dire quoi, celui qui utilise la couronne ? Ça veut dire d'abord celui qui utilise la halakha pour se faire passer des droits. Vous savez, t'as des gens qui se font passer, ils disent comme je suis rabbin, alors pour ça, il doit avoir des droits. La Torah dit c'est très grave. Celui qui utilise la couronne. C'est quoi utiliser la couronne ? C'est utiliser le fait qu'il enseigne la halakha. Et de l'autre côté, Deishtamesh Betaga Chalaf explique la Gemara là-bas, hein, c'est celui qui manque de respect à un rav qui transmet la halakha. Vous voyez dans les deux sens ?
Un rav qui transmet la halakha, éventuellement.
Je reprends. C'est-à-dire comme ça. Déjà, on a dit que Eshet Ra'il Ateret Bala. On a expliqué que la couronne, c'est quoi ? C'est la halakha. La couronne, c'est la Torah. C'est comme la femme. Donc, on a dit pourquoi ? Quel rapport ? Alors, avant de développer le sujet, il amène encore d'autres références dans lesquelles on voit l'importance de la halakha. Première référence, on nous parle d'une personne qui se sert de la couronne de la Torah. On a deux options. Les deux cas sont graves. Premier cas, c'est un rabbin qui enseigne la halakha et qui se sert de ça. Pour avoir des droits ou des choses comme ça. Ça, on dit, c'est très grave. D'un autre côté, deuxième catégorie, c'est quoi ? C'est une personne qui va manquer de respect à un rabbin qui enseigne la halakha. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ? On te dit pas juste manquer de respect à un rabbin tout court. Bien sûr que c'est grave de manquer de respect à un rabbin, mais manquer de respect à un rabbin qui enseigne la halakha, il y a une gravité particulière. Pourquoi ? Pourquoi tu me dis comme il enseigne l'alakha ? Qu'est-ce que ça change qu'il enseigne l'alakha ? Et s'il enseigne la Gemara, c'est pas la même chose ?
Donc il y a le sujet principal qui est l'alakha et les deux intervenants
voilà.
Qui sont à la fois celui qui
qui en profite.
Qui en profite, mais c'est celui aussi qui enseigne.
Voilà.
Tous les deux ne doivent pas faire d'abus.
Exactement. Mais ce qu'on remarque ici dans cette Gemara, c'est quoi? C'est qu'on nous parle particulièrement de la halakha. Vous voyez la nuance ici? On nous parle particulièrement de la halakha. On parle d'une personne qui utilise la halakha. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la halakha? Pourquoi tu me dis que c'est plus grave de manquer de respect à un rabbin qui enseigne la halakha que manquer de respect à un rav en général? D'ailleurs, vous savez, même dans la halakha, on dit que manquer de respect à un dayan. C'est quoi un dayan? C'est quoi? Quelle est la différence entre un rav et un dayan?
Un rav, c'est un enseignant.
Un rav, c'est un enseignant. Un dayan, c'est un juge. Un juge, il enseigne quoi?
Il applique.
Un juge, il applique quoi? La halakha.
Ah oui, d'accord.
Et donc, halakhiquement, c'est plus grave de manquer de respect à un dayan que de manquer de respect à un rav. Vous voyez la nuance? Donc la question qui se pose ici, l'Admor HaZaken, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la halakha? C'est de la Torah, tout ça.
Oui, la Gemara, Tania.
Voilà. Alors pourquoi tu me dis que celui qui... apparemment, il y a quelque chose de spécial dans la halakha. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la halakha? Ça, c'est deuxième point. Donc on a dit, premier point, la halakha est comparée à la couronne, par rapport à la Torah. Pourquoi? Numéro 2, on a dit qu'apparemment, celui qui manque de respect envers un enseignant de halakha, c'est plus grave que celui qui manque de respect envers un enseignant du reste de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Je continue. Toujours là-bas, dans la Gemara Megillah, Tana Deve Eliyahu, on le dit tous les matins, ça, c'est enseigné dans la Yeshiva de Eliyahu, Kol Hashone Halachot, Mouftachlo, Shehu, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Shehu Ben Olam Abba. Tana Deve Eliyahu, Kol Hashone Halachot Becholiom. Ça vous dit quelque chose, ça, tous les matins? Tous les matins, après Kaveh. Qu'est-ce qu'on dit après Kaveh? C'est enseigné dans la Yeshiva de Eliyahu Navi. Tout celui qui enseigne des Halachot tous les jours, il a la garantie. Shehu ben Olam Haba qui rentrera au Olam Haba. Qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? Kol Hashone, tout celui qui enseigne, dit Halachot.
C'est celui qui enseigne la Gemara.
C'est celui qui enseigne la Gemara.
Pourquoi?
Ah non, c'est pas inclus dedans. Apparemment, il y a une garantie spéciale. Une garantie spéciale avec celui qui enseigne Halachot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Halachot? D'accord? C'est bizarre. Vous voyez ce qu'on dit ici? La Gemara te dit là-bas, elle te dit, celui qui manque de respect à un maître de halakha, particulièrement, c'est très grave. Là, on te dit maintenant aussi, celui qui apprend des halakhot tous les jours, il a un passe-droit spécial pour entrer au Gan Eden.
Ah, voilà, celui qui enseigne.
Celui qui enseigne ou celui qui étudie.
Ah, d'accord.
Le fait d'étudier des halakhot tous les jours, ça veut dire au moins deux halakhot, il aura le Olamaba. Mais pourquoi que des halakhot?
Et pourquoi on ne pense pas si halakhot? Ce matin, tu dis la mise du jour après la.
Ben voilà, la mise du jour, c'est une halakha.
Ah, c'est là, mais c'est pas profondi. Après, tu laisses sur l'autre fin, tu t'en vas.
Non, c'est pas écrit qu'il faut apprendre le sens de halakha. Après, il faut rester au cours, certes.
Oui,
non, mais non, alors qu'avant, si tu veux, on faisait des petites halakha, genre quand on met taïs, on mettait devant des choses qui sont intéressantes de la vie de tous les jours.
Parce qu'on n'a pas besoin de développer la halakha. Il faut juste dire une halakha. Une ou deux halakha.
La halakha, c'est la loi.
C'est la loi.
Non, mais alors, excuse-moi, je m'excuse, tu t'enseignes pas quand tu me dis la halakha du jour, c'est faire ça. Ça enjoint un moment, d'accord, mais après. Tu
non, 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 il y a la loi et il y a l'application de la loi. Donc,
oui, mais
il y a la
loi,
on te donne la halakha. C'est la halakha, généralement, c'est quelque chose de relativement synthétique. C'est une phrase. C'est
une loi, d'accord.
C'est pas grand-chose. Dans la longueur de la phrase, voilà ce qu'on te demande d'intégrer. Après, tout ce qui est commentaire, tout ce qui peut être développement, c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose.
Mais moi, par exemple, je sais qu'avant, on étudiait la halakha, j'ai appris, il y a ici, même ici, il y a beaucoup de gens qui savent pas mettre le talit, tu vois. Vous savez qu'il fallait l'enrouler, il fallait une façon de faire. Bon, mais c'est des choses qu'on a étudiées, ils sont intéressants parce que c'est enregistrant, parce que non seulement tu fais.
Bon, on fait beaucoup d'alakhot ici, bon,
prochain. Ah, d'accord.
Beaucoup de cours d'alakhot. Mais le matin.
Je pense que c'est mieux à mon avis, de faire au moins une alakhot approfondie, quoi. Même les trucs simples, des trucs qui paraissent bêtes pour toi, parce que bon, mais qui sont.
Viens au cours.
C'est quand, à quel
moment? Tous les matins.
Tous les matins.
Ah, je sais pas, jamais l'outil à l'école, après je travaille. À quelle heure c'est le cours? À 9h.
Tous les matins, après la fila, on fait cours jusqu'à
9h30. De 9h moins 10 à 9h30.
D'accord. Bon, mais en tout cas, nous on fait la mise à du Rambam parce que c'est le rabbi qui a instauré.
Ah oui, non, mais je critique pas, non. Je dis pas que.
Donc je reprends. D'accord. La question qu'on se pose ici, c'est qu'on voit qu'apparemment il y a une importance particulière à la halakha. On voit qu'il y a une gravité particulière à celui qui manque de respect à un maître de halakha. Et on voit qu'il y a une chance particulière pour celui qui apprend la halakha tous les jours, qu'apparemment il est le monde futur. La question qu'on se pose, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la halakha? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et surtout, la question qu'on se pose, c'est Vega, Vetzarich, Lavi, il faut comprendre. Lama, Nikreu, Alachot, Beshem, Taga, Vechitra, Shel Torah. Pourquoi les Alachot sont appelés la couronne de la Torah? Quel rapport? Apparemment, ça veut dire qu'apparemment, les Alachot, c'est le top de la Torah. Je sais pas, ça n'a pas l'air ça quand tu étudies la Torah. Est-ce que c'est les Alachot? Est-ce qu'il y a le top dans la Torah? Bon, les Alachot, c'est technique. Qu'est-ce qu'il y a de tellement beau dans les Alachot? Il y a rien. Quand on dit la couronne en général, quand on dit par exemple le joyau de la couronne, c'est on s'attend à quelque chose de la Kabbalah ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça le joyau de la couronne. C'est la halakha. Qu'est-ce qui est spécial dans la halakha? Vegam aussi. Lama hashoni halakhot davka muftach lo gom khule velo shir divrei Torah. Donc ça, c'est la question qu'on a posée. Pourquoi celui qui enseigne des halakhot particulièrement, il a la garantie d'avoir le lamaba? Mais celui qui apprend le reste de la Torah, bon, il fait une mitzvah. Mais il n'a pas cette fameuse garantie d'avoir le lamaba. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la halakha? Donc on a déjà deux questions, on est d'accord? Enfin, deux questions, mais en vérité, ça forme une seule question qui est, il faut comprendre l'importance de la halakha. Je continue. Vechen, pareil. Le'avin, ma'amar, rabotenu, zichonam, livracha. Il faut comprendre aussi ce que les rachamim ont dit. Ça, c'est la page 200. Voilà, vechen, ici. Vechen, non, je suis à vechen. Trois lignes avant la fin du paragraphe. Tu vois? Voilà, vetzaïch, le'avin, juste après, vechen. Vechen, pareil. Le'avid, ma'amar, rabotenu, zichonam, livracha. Il faudrait comprendre ce que les rachamim disent. Beperek Yud Alef Dimnachot, dans le 11e chapitre de la Gemara Mnachot. La Gemara dit là-bas, Afilu lo shana, même si une personne n'a étudié dans sa journée, et là seulement, Perek Echad Shacharit, un chapitre le matin, roulé, etc., donc, et un chapitre le soir, Yatsa Yede Chovato, il est quitte. Alors, je vous explique de quoi elle parle la Gemara là-bas. Il y a une mitzvah dans la Torah qui te dit,
pardon,
qui te dit, Lo Yamush Sefer Atorazem Epicha. La Torah te dit, le Sefer Torah n'aura pas le droit de bouger de ta bouche. Ça veut dire que tu devras toujours être occupé par la Torah. Alors la Gemara, elle dit là-bas, elle dit, oui, mais il faut bien travailler. Comment tu veux que je ne peux pas parler de la Torah toute la journée? Et qu'est-ce qu'elle dit là-bas, la Gemara? Elle dit, même si une personne a appris un perek le matin et un perek le soir, il est quitte de la mitzvah de l'étude de la Torah. Après, le reste, c'est du bonus. Qu'est-ce qu'on remarque dans l'expression là-bas? Même s'il a appris seulement un chapitre. Un chapitre de quoi? Il n'y a pas de chapitre dans la Gemara. Il n'y a pas des chapitres structurés. D'accord? Donc quand on parle d'un chapitre, c'est quoi? C'est un chapitre de halakha. Donc encore une fois, une troisième référence qui parle de halakha, elle te dit qu'une personne qui a appris un chapitre de halakha le matin et un chapitre de halakha le soir, il est quitte de la misère d'étudier la Torah. Encore une fois, la halakha. Pourquoi on se focalise particulièrement sur la halakha? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Vous voyez la question? Donc ça, c'est la question en général. Velama eno yotze yedechovato bishar divrei Torah. Pourquoi tu me dis qu'il se rend quitte particulièrement, hein? Tu me dis qu'il se rend quitte particulièrement avec les halakhot. Pourquoi pas avec le reste de la Torah? On est d'accord? Donc en gros, la question qu'on se pose ici maintenant, on voudrait comprendre l'importance de l'étude de la halakha. Alors pour répondre à cette question, l'Admor HaZaken va devoir nous expliquer de manière générale le sens des 613 mitzvot. Ça veut dire pourquoi on doit faire les 613 mitzvot. Et on va développer beaucoup de choses, et après il expliquera la conclusion de ce cours. Je pense pas qu'on y arrivera aujourd'hui, mais la conclusion de ce cours sera qu'en vérité, la halakha, c'est ce qui va assurer la communication entre la neshama et Akadosh Baruch Hu, l'étude de la halakha.
Qu'est-ce qu'il y a par la halakha?
Par la halakha?
Parce qu'en vrai, tout le but de tout, c'est de sortir une loi, de sortir un enseignement, même le moussard, en vrai, c'est... Il y a des halakhot.
Tu as raison, mais seulement le problème...
C'est aussi...
Le but de tout, c'est de sortir des halakhot.
Voilà, donc... Il y a pas
mais comme on a expliqué, on voit que dans la Torah, tu as le Midrash, tu as les histoires, tu as la Gemara, qui est le développement de la halakha, mais qui n'est pas la halakha. C'est-à-dire que très souvent, pour arriver à une conclusion, tu vas faire 5 pages de Gemara. Donc la conclusion, c'est 2 lignes.
Mais tu vas partir d'une Mishnah quand même.
Oui, tu vas partir d'une Mishnah. La Mishnah, c'est la halakha de l'époque.
Voilà.
Tu as compris. Mais ça veut dire que c'est pas de la halakha. J'étudie pas de la halakha quand je fais de la Gemara. J'étudie pas un texte de loi. J'étudie le développement de la halakha. Apparemment, il y a une importance particulière à l'étude de la halakha.
C'est le texte.
Le texte de la halakha. La halakha. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Comment on tranche?
Le code. D'accord? C'est la halakha. Quand on fait des cours de halakha, c'est la halakha brute. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans l'étude de la halakha?
Justement, si tu prends en compte la halakha comme la halakha sans son développement et tout ça, t'as plus de mérite parce que tu comprends pas le...
Non, on parle pas de comprends, même si je comprends. Je comprends, on me donne un cas pratique, on m'explique, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, je comprends ce qu'on me dit.
Si on te dit pas le déroulement du processus...
Je le connais peut-être le déroulement, mais on te dit, quand tu as étudié la halakha, apparemment il y a quelque chose qui se passe, ça veut dire comme ça. Imagine-toi que j'étudie une page de Gemara, j'étudie 3 pages, d'un coup comme ça, pendant 3 heures. Mais j'ai pas encore étudié la halakha. Pardon. Et qu'à la fin, les dernières minutes, je dis voilà la conclusion, la halakha.
Mais quand tu parles des...
Et que, juste deux secondes, je termine. Et que, donc, en 3 minutes, j'ai fait la halakha à la fin. Et bien, ce que t'expliques ici, l'Admor HaZaken, c'est que dans ces 3 dernières minutes que t'as étudié la halakha, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, il y a une communication particulière qui va se faire entre ta Neshama et Kadosh Baruch. Pourquoi ?
Pardon. Quand tu parles d'étudier la Gemara, de toute façon, on se base sur une halakha que l'on développe. Que l'on commente.
Alors non, pas forcément. Des fois, on est en train de créer la halakha.
Processus inverse.
Non, il a raison. Des fois, c'est comme ça. Des fois, t'as une Mishnah, et on veut comprendre la Mishnah. C'est pas toujours comme ça, ouais.
D'accord, mais donc, dans un sens comme dans l'autre, quand tu étudies la Gemara, indirectement, tu étudies...
Mais c'est vraiment indirectement. Ça veut dire que des fois, par exemple, si tu dis un cours de Gemara, des fois, par exemple, on va développer un sujet sur 4 ou 5 pages, et en vérité, le pourcentage de halakha, c'est même pas 1%. Parce que la conclusion à la fin, il y aura une conclusion, ce sera en 2 lignes et c'est fini.
Alors, donc il y a un minimum requis.
Il n'y a pas justement. Ce qu'on te dit ici, c'est qu'apparemment, quand tu vas utiliser ta page de Gemara, eh ben, ce qu'on va t'expliquer ici, c'est que dans ce 1 ou 2% de halakha, il va se passer quelque chose qui ne se passe pas dans le reste. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans halakha ? On est d'accord ? Il y a quelque chose de particulier dans halakha. Alors, là, on va prendre le paragraphe suivant. Ah, seulement. Pour répondre à cette question, Mouda Hadzot, c'est connu, Mashe Kotev Harizal. Là, on va développer. C'est connu ce qu'écrit le Harizal, Shekol Adam Yisrael, que toute personne du Ham Yisrael, Tsarich Lavo Begilgulim Rabim, il doit passer par plusieurs réincarnations, Ad Shiyekayem Kol Taryag Mitzvot Atorah. Chaque Neshama, chaque âme, doit accomplir les 613 mitzvot. Sauf, comme on va expliquer tout à l'heure, les mitzvot qui dépendent. Non. Même ça qu'on peut pas faire. Attends, on va voir.
Non, les étudiants, on peut les faire.
Mais... Non, il faut faire toutes les mitzvot. Sauf les mitzvot qui dépendent du roi. D'accord ? Et éventuellement les mitzvot qui dépendent des Kohanim. Mais on va expliquer que même ça, on va trouver des solutions. Alors, on est obligé, pourquoi ? C'est très simple. Le Harizal te dit comme ça. Il dit, chaque Neshama a besoin de faire les 613 mitzvot. Et comme on l'expliquera dans la suite, même les mitzvot qui dépendent du roi, on va trouver une manière de les accomplir. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Alors, d'abord, on lit les mots du Harizal. Chez Kol Adam Yisrael, toute personne du peuple juif, Tsarich Lavo Begilgulim Rabim, il doit passer par plusieurs réincarnations, Ad Sheyegayem Kol Taryag Mitzvot à Torah, jusqu'à ce qu'il accomplisse toutes les 613 mitzvot de la Torah, Bema Hashava, Dibur, Uma Asé. Quand on fait des mitzvot, on utilise 3 vecteurs. C'est quoi les 3 vecteurs ? La pensée, la parole et l'action. Et des mitzvot qu'on fait par la pensée, des mitzvot qu'on fait par la parole, des mitzvot qu'on fait par l'action. Par exemple, aimer à Kadosh Baruch Hu, c'est par la pensée. Craindre à Kadosh Baruch Hu, c'est par la pensée. Il y a des mitzvot par la parole. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire du Lashon Hara, dire des belles paroles. Ça, c'est des mitzvot dans la parole. Les mitzvot dans l'action, c'est la majorité des mitzvot. Par exemple, ne pas transgresser Shabbat, mettre les tefillin, d'accord ? Faire ou ne pas faire. Ce que te dit le Harizal, c'est que chaque personne du Ham Israël doit passer par les 613 mitzvot. Et si une personne arrive en haut et qui n'est pas passée encore par les 613 mitzvot, on le fait redescendre sur terre. On le fait redescendre sur terre, mais seulement voilà le piège. On ne le fait pas redescendre sur terre pour qu'elle accomplisse toutes les mitzvot. Pour qu'elle accomplisse ce qui lui manque. C'est pour ça que quand des fois on voit aujourd'hui des juifs pas religieux, on se dit mais c'est pas possible, comment ma chère va venir ? En vérité, ce qu'il faut savoir, hein, ce que le rabbi répétait souvent, c'est que selon ce Harizal-là, en vérité, une fois qu'une Neshama qui est descendue par exemple à Milan, elle a déjà fait 610 mitzvot, et il lui manque 3 mitzvot. On va la refaire descendre autant de fois qu'il faut pour qu'elle fasse les 3 mitzvot. Maintenant, sur toutes les autres mitzvot, on ferme les yeux.
Oui, parce qu'elles sont déjà accomplies.
Parce qu'elles sont déjà accomplies. La Neshama n'est pas redescendue pour ça, elle est redescendue pour une...
A l'inverse, si une personne, elle arrive et elle fait les 613 au cours d'une vie...
Oui, c'est fini, il arrive en haut, il est complet.
Il est complet, ça veut dire...
Il est complet, ça veut dire qu'il est prêt pour Mashiach.
Donc il n'est pas dans un processus de Gilgul.
Le processus de Gilgul, c'est seulement pour une personne qui a un manque. Le Gilgul, les réincarnations, c'est seulement pour une personne qui a un manque. Donc le Harizal te dit... qu'on a besoin de faire les 113 mitzvot. C'est important d'expliquer ça, parce que...
On le rappelle dès qu'il a fini, ou...
Dès qu'il arrive en haut...
Non, mais dès qu'il a fini ses mitzvot, on le rappelle, ou quoi ?
Ça veut dire quoi ?
Il lui en manque 3. Il est fait à 15 ans. Il essayait.
Ça banque, ça dépend comme un Kadash Baruch Hu. Ça, je sais pas.
Non, mais après,
c'est pas un encouragement pour les faire. Hein.
Mais non, après, il a qu'à
non libre. Le problème, c'est que tu sais pas quelles sont tes mitzvot.
Ouais, c'est ça.
Justement, non, si tu fais rien, t'es sûr que tu peux les
non,
faire.
Mais quand tu dis que tu ne sais pas, c'est-à-dire, en imaginant le T0, d'accord ? Tu sais que tu as 613 mitzvot à faire, tu les fais pas dans une vie, tu reviens, et puis tu n'as pas conscience de ce que tu as déjà fait au cours d'une autre vie.
Ah oui, ça peut faire...
Donc ça veut dire que tu es, à la première, tu es clair, quand tu sais, et quand tu n'as pas fait, bon, bref, tu repars, mais quand tu reviens, c'est à l'aveugle. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs Gilgoulim à l'aveugle.
Mais le Rabbi l'explique, il dit que quand même, on sent que la mitzvah, pour savoir quelle est la mitzvah qu'on doit faire, c'est la mitzvah sur laquelle on a le plus de difficultés. Ça peut être un indicateur. Ben non, c'est pas dit qu'on arrive à le voir.
Encore faut-il le savoir.
Encore faut-il le savoir. D'accord ? En tout cas, ce que nous dit le Harizal, c'est quoi ? C'est que justement, donc, l'âme a trois vecteurs. La pensée, la parole et l'action. C'est trois moyens d'expression qu'on a. On peut s'exprimer par sa pensée, on peut s'exprimer par sa parole, on peut s'exprimer par l'action. C'est les trois choses, avec ça on couvre tout. On est d'accord ?
Mmh.
Par exemple, une personne qui bouge ses mains, qui bouge ses pieds, c'est l'action qui s'exprime. Quand je réfléchis tout seul, c'est ma pensée qui s'exprime. Et quand je parle, c'est ma parole. Ces trois vecteurs. Les mitzvot couvrent ces trois vecteurs. D'accord ? Et la neshama a besoin de ces 613 mitzvot. Une neshama qui n'a pas fait, elle devra redescendre sur terre. C'est obligé. Et comme il dit l'Arizal, « Kede le'ashlim le'bouché nafsho le'taknam, shelo yé le'bouché de chasra. » Il dit c'est très simple. L'Arizal, il dit c'est très simple. Il te dit, de la même manière que... Alors, ça, pour ça, il faut que je revienne à un cours qu'on avait fait dans le chapitre 4 du Daniel. Ça fait très longtemps, ça fait 5 ans. L'appel avait expliqué que la pensée, la parole et l'action. Je ne sais pas si tu étais déjà là, Youssef ?
Non.
Alors, je vais expliquer. C'est quelque chose d'important. L'appel à Morazakan avait expliqué que la pensée, la parole et l'action, c'est appelé comme des vêtements. Pourquoi un vêtement ? Pourquoi c'est comparé à un vêtement ? Il dit très simple. Il dit parce qu'un vêtement, tu peux le mettre sur quelqu'un de méchant comme tu peux le mettre sur quelqu'un de gentil. C'est-à-dire que le vêtement n'a pas de nature propre. Le vêtement, il va dépendre de la personne qui le met. On est d'accord ? Ça veut dire que, par exemple, si tu mets un vêtement large sur une personne qui est maigre, d'accord ? Le vêtement, en soi, il est bien. Mais comme il n'est pas adapté à la personne, ça passe pas. C'est-à-dire qu'un vêtement, c'est quelque chose qui peut aller sur plusieurs corps. On est d'accord ? Alors, la balade Morazakan, dans chapitre 4, avait expliqué la chose suivante. Elle avait expliqué que la pensée, la parole et l'action, c'est comme un vêtement. Est-ce que la pensée en soi, c'est quelque chose de bien ou de mal ? C'est comme un vêtement. C'est ni bon, ni mauvais. Ça dépend ce que tu vas en faire. Ça dépend, est-ce que tu vas utiliser ta pensée pour penser à des divrei Torah, ou est-ce que tu vas utiliser ta pensée pour penser à des bêtises ? Donc la pensée en elle, le moteur qui s'appelle la pensée, est-ce que c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais ? Ni l'un, ni l'autre. Ça s'appelle un vêtement. C'est un vêtement, ça veut dire, je peux le prendre, d'accord ? Je peux l'habiller sur quelque chose, je peux le mettre, ça veut dire qu'en nous, on a deux moteurs. On a un moteur qui veut faire des mitzvot, un moteur qui veut faire des avérotes. Et après, t'as comme un sort de... La pensée, la parole et l'action, c'est comme on va imaginer dans un moteur, je passe la vitesse. Maintenant, tu passes la vitesse, imaginez-vous un moteur dans lequel t'as deux options. Soit tu passes la vitesse, tu enclenches la vitesse version Yetzara, soit version Yetzertov. D'accord ? Ça veut dire, voilà, c'est toi qui décides. Si tu décides d'enclencher la vitesse, est-ce que la boîte à vitesse en soi, c'est quelque chose de cachère ? Elle a rien, la boîte à vitesse en soi, c'est rien. C'est des pistons qui tournent. Mais non, seulement les pistons, ça dépend à qui tu vas les connecter.
Pas les pistons. Les roues dentées,
voilà. Ouais. C'est-à-dire que la pensée en elle, c'est comme des roues dentées, ça dépend à qui tu la connectes. Tu la connectes au Yetzerara, eh ben,
pas de problème.
Elle va être au service du Yetzerara. Tu la connectes au Yetzertov, elle va être au service du Yetzertov. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un vêtement. Un vêtement, c'est quelque chose qui n'a rien de propre. C'est quelque chose que ça dépend où tu le mets. La pensée, la parole, l'action. La parole, c'est la même chose. Est-ce que la parole, en soi, c'est quelque chose de bien ? C'est ni bon, ni mauvais. C'est un vêtement, c'est un lévouche. Tu peux l'utiliser pour dire des bonnes paroles, tu peux l'utiliser pour dire des mauvaises paroles. C'est la même chose pour l'action. Tout ce qu'on a dans notre corps, tous les membres de notre corps, nos yeux, par exemple, est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais ? C'est un vêtement, tu en fais ce que tu veux. D'accord ? C'est un vêtement. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle un vêtement, c'est un lévouche. Mes yeux, ma bouche, mon nez, je fais ce que je veux avec. Si je veux sentir quelque chose de mauvais, si je veux voir quelque chose de mauvais, si je veux manger quelque chose de mauvais, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Je peux faire le mal ou je peux faire le bien. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un levouche, un vêtement. Maintenant, le Harizal, il pousse cette idée plus loin. Ça, on ne l'avait pas développé dans le chapitre 4. Le Harizal, il dit qu'en vérité, on a besoin de porter ces 613 vêtements. Et que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on se met un vêtement. Donc par exemple, alors ça peut être une mitzvah ou le fait de ne pas accomplir une avéra. Par exemple, quand je ne transgresse pas le Shabbat, je vais me vêtir du vêtement du Shabbat. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on va se vêtir d'un vêtement. Et le Harizal te dit, quand une personne arrive en haut, on regarde le nombre de vêtements que ce Neshama a. Parce que chaque fois que tu fais une mitzvah, la mitzvah enveloppe la personne, comme un vêtement. D'accord ? Seulement, te dit le Harizal, quand on arrive en haut et qu'en haut on découvre que cette personne-là, il lui manque un vêtement, on lui dit, tu redescends sur terre, va chercher le vêtement qui manque. Voilà pourquoi on compare ça à un vêtement. Pour te dire que finalement, la pensée, la parole et l'action, c'est quelque chose de neutre. Alors, maintenant on a dit, les 613 mitzvot, on ne peut pas les accomplir. Il y a des mitzvot que, par exemple, qui concernent le roi. Par exemple, il y a une mitzvah qu'on te dit que le roi devrait écrire un Sefer Torah pour lui.
Ah, le roi, pas.
Le roi. Nous, on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. D'accord. Il y en a qui disent qu'on peut accomplir cette mitzvah en achetant un chumash. Bon, en tout cas, normalement, on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et le roi a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah supplémentaire. C'est-à-dire que le roi avait deux Sefer Torah. Un Sefer Torah en tant que membre du peuple, et un deuxième Sefer Torah en tant que roi. Ce Sefer Torah devait être en petit format, et il devait accompagner le roi partout où il allait. Partout où il allait le roi, il se déplaçait avec son Sefer Torah. C'était pas pour le lire. Le but n'était pas de lire dedans, le but c'était de se déplacer avec. Le Sefer Torah du Meler. Donc c'est une mitzvah de la Torah, une des 613 mitzvot, c'est une mitzvah qui s'adresse au roi qui lui demande d'avoir un Sefer Torah. Il y a plein de mitzvot qui concernent le roi. Qu'est-ce qu'on connaît encore sur le roi? On te dit par exemple que la Torah te demande d'honorer le roi. C'est pour ça que le roi, par exemple, le roi n'a pas le droit d'aller à la piscine avec tout le monde. Il n'a pas le droit. Parce qu'un roi, on n'a pas le droit de le voir dans un état de nudité.
Mais non, honorer le roi, aujourd'hui il n'y a plus de roi, c'est
aujourd'hui il n'y a plus de roi.
Le principal, c'est le président.
Non. Ah, le roi, c'est le roi.
Donc la maison, on ne peut pas le faire aujourd'hui.
Non.
Ah d'accord.
C'est le roi, c'est le roi. Il y a des mitzvot qui ne concernent que le roi.
Mais quand tu parles du roi ou d'un président, on parle de ce que Dieu a donné en particulier à ces gens. C'est tout. C'est
bah oui.
Une racha particulière. Mais ça n'est pas un roi reconnu comme étant celui d'Israël.
Ça n'est pas un roi ? Oui, d'accord.
Par le roi du Maroc, tu dois respecter ça.
Non, on parle surtout sur le roi d'Israël, mais bon.
Ah d'accord, oui, d'accord.
On parle pas. Parce que le roi du Maroc, il n'a pas écrit.
Ah oui, d'accord. Ah oui,
tu dois le respecter quand même.
Ah d'accord.
Donc, il y a plusieurs mitzvot. Il y a plusieurs mitzvot qui dépendent du roi.
D'accord, oui.
Non, c'est pas ça.
Il y a plusieurs mitzvot qui dépendent du roi. Alors ces mitzvot là, comment on les fait ? Tu me dis que je dois faire les, je dois avoir 613 vêtements.
Qu'on pouvait pas faire en fait. Les étudier, c'était comme si.
Ah non.
Moi,
non, ça c'est écrit, on avait étudié une fois du Admor HaZaken, que l'Admor HaZaken disait que quand on étudie, il disait que dans une mitzvah, il y a toujours le sens, et l'aspect pratique de la mitzvah, il y a toujours le sens de la mitzvah. Par exemple, quand on fête Pessah, d'accord ? Pessah, il y a le concept de la matzah et du chametz, il y a le sens de Pessah, qui est le sens de le chametz, c'est l'orgueil. Quand on met les tefilines, par exemple, il y a les tefilines physiques, mais il y a le sens des tefilines, que les tefilines, on va servir le cœur et l'esprit à Kadosh Baruch Hu. Alors pareil, quand on met la mezouza par exemple, il y a la mezouza physique, il y a le sens de la mezouza qui est se rappeler à son entrée à la maison, qui est à Kadosh Baruch Hu, qui protège la maison. Toutes les mezouzas, il y a toujours un sens. Donc ce que Yosef, tu veux dire, c'est que c'est la Morazaken qui explique ça longuement, que même si on ne peut pas faire une mitzvah physiquement, on doit essayer au moins d'étudier le sens de la mitzvah. Comme par exemple, si je ne peux pas offrir un korban à Kadosh Baruch Hu, je peux offrir du sacrifice, au moins je vais essayer de réfléchir à la logique du korban. Mais ça change pas que le Harizal te dit que chaque mitzvah doit accomplir, chaque neshama doit accomplir au moins une fois dans sa série de réincarnation la mitzvah. L'accomplir. Et nous, on a tous des réincarnations, c'est-à-dire que le neshama, en général, il date depuis déjà l'époque du Beth Amikdash.
Ils l'ont fait déjà.
Ah, c'est sûr.
Donc certainement que les mitzvot de l'époque du Beth Amikdash, ils l'ont fait. Mais il nous manque des mitzvot, on sait pas lesquelles.
Non, on a peut-être les rois aussi.
Il nous manque des fois une ou deux mitzvot.
Tu reviens en Guigou pour une seule mitzvah, tu peux revenir en Guigou.
Pour une seule mitzvah.
Ah bon?
Bien sûr. Pour l'accomplir une fois. Comment il disait Baal Shem Tov? Baal Shem Tov, il disait, un juif peut descendre pendant 70, donc dans ce monde pendant 70 ou 80 ans, que pour rendre service un jour à un juge. C'est-à-dire, c'est possible que...
Sa mitzvah, c'est...
C'est ça, sa mitzvah.
Mais là, tu parles d'une mitzvah particulière, tu parles pas de Tariag.
Je parle d'une mitzvah, oui. Par exemple, il lui fallait, il manquait une mitzvah. Il manquait celle-là.
C'est-à-dire le fait d'aider un juif, c'est
une. Le fait d'aider un juif, par exemple, de lui. Voilà, ce matin, on a parlé d'Alachot du prêt.
Oui.
D'accord ? Quelqu'un qui n'a jamais prêté d'argent, puisqu'il n'en avait pas à prêter. Et Dieu va faire en sorte qu'il doit prêter de l'argent. C'est une mitzvah de prêter de l'argent. Donc imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais prêté d'argent de sa vie parce qu'il n'en avait pas. Et bien Dieu, quand il arrive en haut, il lui dit : écoute, mon ami, tu n'as pas prêté d'argent. Prêter de l'argent, c'est une mitzvah. Donc tu vas redescendre sur terre et on va te donner un peu d'argent et tu vas devoir prêter.
Et donc là, on parle d'accomplir la mitzvah au moins une fois.
On en a parlé, Shabbat.
Hein ?
Ah, je ne sais pas si c'est une 813 mitzvot.
Bien sûr, prêter, oui. Donc.
Non, donc, toutes les mitzvot, elles font 813 ou non ?
Toutes les mitzvot.
Quand tu fais mitzvot, tu fais mettre des tefilines à quelqu'un, tu fais mitzvot. Mais c'est pas écrit. Est-ce que c'est.
Quand tu mets les tefilines à quelqu'un, tu fais la mitzvot d'aimer ton prochain. Lui, il fait la mitzvot des tefilines, toi, tu fais la mitzvot d'aimer ton prochain.
Ah oui, d'accord. Il y a toujours.
Ah bah oui,
tu l'aides.
Il y a toujours une mitzvot.
Mais ça veut dire que. Il suffit de faire une seule fois une mitzvah pour qu'elle soit comptabilisée.
Oui.
Et des mitzvahs récurrentes, comme par exemple mettre les téfilines, c'est une mitzvah.
Oui.
En tant que telle. Sauf que si tu l'as fait, tu le fais une fois et tu le fais pas
une fois. Il faut avoir mis les téfilines au moins une fois dans sa vie.
Et après, t'es
quitte. Tu l'avais dit.
Selon le Rambam. Non.
Après, t'es quitte.
Vas-y, t'es quitte.
Ah,
non. Il y a deux choses. Il y a d'abord qu'une personne, même si une neshama qui redescend en Gilgoul, s'il a fait le malin en bas. Bien sûr que quand il va arriver, imagine-toi, avant de descendre en Gilgoul, on lui dit il te manque 2 mitzvot à faire. Oui, maintenant, il est descendu en bas, il a fait ses 2 mitzvot, mais au passage, il a fait les 400 coups. Il payera pour ça. C'est pas la question, ça. Il payera au Gehinnom pour ça. La question est, est-ce qu'on doit le faire redescendre ou pas ?
Non, parce qu'il a accompli.
D'accord ? La réponse est non. S'il a déjà accompli une fois dans ce cursus de Gilgoulim, les 613 mitzvot, dans ce cas-là, on lui dit bon, ben écoute, t'es déjà passé par les 613 mitzvot en bas, maintenant le reste, on se débrouille en haut. Gehinnom, nettoyage, c'est en haut. On fait redescendre une personne sur terre seulement quand il y a quelque chose qu'il n'a pas fini en bas, qu'il n'a pas fait au moins une fois en bas. C'est tout. On est d'accord ? Ok. Donc, tout ça pour dire quoi ? Les 20 mitzvot, c'est plus l'aide de Meller. J'étais en train de dire qu'il y a des mitzvot qui dépendent du Meller. Le Meller, c'est quoi, Youssef ? C'est avec nous, Youssef ? C'est le roi. Alors, comment on fait une mitzvot avec le roi ? Les mitzvot qui dépendent du roi, comment je peux les faire ? Il y aura bien un roi. Je veux dire, tu vas pas me dire que sur les 600 000 neshamot, il y aura une neshama qui sera à chaque fois roi. C'est pas possible, on n'a pas eu 600 000 rois.
Ah oui.
Alors, comment on va faire ? Qu'est-ce que tu penses, Youssef ?
Je sais pas, moi, j'ai épuisé mes.
Tes réponses ? Tes cartouches ?
Ouais.
Mais on est tous un petit peu un roi, non ?
Alors il dit comme ça. Il dit ici qu'en vérité, les seules exceptions à la règle, c'est les mitzvot du roi, puisque le roi va rendre quitte le peuple avec ses mitzvot. Pourquoi ? Parce que étant donné que le roi, c'est pas une personnalité, c'est pas une personne qui est, on va dire, individuelle. Le roi, c'est une personne qui représente le peuple. C'est le cœur du peuple. Il représente le peuple en entier. Donc, comme le roi représente le peuple, donc, quand il fait une mitzvah, il en fait bénéficier au passage tout le peuple. Mais seulement sur les mitzvot spécifiques au roi. C'est-à-dire, quand le roi, il met les tefilines, est-ce que les tefilines, c'est une mitzvah spécifique au roi ? Non. Donc, il ne rend pas quitte le peuple pour ça. Mais quand c'est une mitzvah spécifique au roi, là, dans ce cas-là, le roi rend quitte le peuple pour ça. Mais il y a quelques mitzvot qu'il y a pour le roi. Il y a une dizaine de mitzvot pour le roi. Tout le reste, on doit passer une fois pour les accomplir. Or, ça va aller très loin, ça. Parce que, il y a une mitzvah, par exemple, qui te dit la mitzvah du divorce. Eh oui.
Oui.
Alors, la mitzvah, c'est pas de divorcer. La mitzvah, c'est que si tu divorces, voilà comment tu dois le faire.
Mais si tu divorces pas, il faut revenir en Gilgoul pour divorcer.
Alors, comment on fait ?
Il faut divorcer, pour ressembler.
Hein, qu'est-ce que tu penses, Joseph ?
Oui, question, c'est pour revenir. Alors, ce qui est...
Le palliatif, il faut mieux le faire, parce que comme ça, monter sur
le. C'est compliqué comme question.
Tu m'as dit l'autre fois que le truc, c'est juste d'appliquer comme il se doit. Mais bon, mais si tu n'as pas l'occasion de
faire. Ah oui, mais voilà, c'est le vêtement, il faut mettre le vêtement. T'arrives en haut, t'as jamais eu besoin du vêtement parce que t'as jamais eu froid. Oui, mais t'as pas le vêtement.
Ah, alors quelle solution ?
C'est un vêtement.
Quelle solution ? Ouais.
Non, mais est-ce qu'il y a un pendant au divorce ? Dès lors que tu fais quelque chose de côté, alors.
Non.
Ah oui. Non. Tu vas y penser aucune
mitzvah. Non. La mitzvah du divorce, c'est que si une personne veut divorcer, voilà comment il doit faire. Donc c'est une mitzvah que celui qui ne divorce pas ne peut pas faire.
Oui, quand celui qui doit avoir fait la brit mila, celui qui n'a pas de garçon, malheureusement. Qui a fait toutes les mitzvot, il a eu des filles. Il doit revenir.
Celui qui
a eu des garçons, qui a eu des filles par exemple. et qui va faire une mitzvah.
C'est il lui manque cette mitzvah. Il faut qu'il ait fait au moins une fois dans la série de Gilgoum.
Non, c'est oui. Et s'il a fait depuis 6000 ans,
il redescendra tant qu'il faudrait qu'il ait un garçon. Les mitzvot négatives, on les accomplit en ne les faisant pas.
D'accord. C'est ne pas manger de...
Voilà, ne pas manger, ne pas se marier avec deux sœurs, ne pas...
Enfin, ah oui, d'accord,
d'accord. D'accord. En ne le faisant pas, tu l'as accompli. C'est-à-dire qu'il suffit que la personne ne l'a pas fait une fois, quand il aura on lui dit bon...
Dans le stress, tu as un négatif et tout est inclus. Ah, voilà. D'accord.
Il y a combien
de positifs d'ailleurs? Ah oui, il y a une partie...
248.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'ait pas fait de toute sa vie pour la
compléter. Ah oui, pour lui compter.
Il faut qu'il passe au moins une fois dans sa vie sans l'avoir fait.
Donc, en principe, la majorité des mitzvot négatives, on les a faites au moins une fois, c'est impossible.
Normalement, oui. Enfin, on les a faites.
On les a accomplies.
Le rabbi dit clairement, que de nos jours, les neshamot, il faut être un tzadik pour le dire ça, que de nos jours, la majorité des neshamot ont déjà accompli la majorité de leur quota de mitzvot. Il reste des petites babioles.
Ça veut dire qu'une fois que
c'est important ce que tu dis, parce que justement, quelqu'un qui est dans ses guilgoules et qui doit revenir je ne sais combien de temps. Je veux dire, le Mashiach, il ne viendra que si tout
le monde a accompli ça. Tu vas devancer. Oui.
Donc ça veut dire que...
On peut attendre longtemps, alors.
Non, ça, non, justement, c'est ça.
Au contraire,
en fait, il
on n'est pas loin.
Il reste très peu.
Non,
donc ça veut dire que le fait d'arriver à Mashiach est une chose qui est très...
Chez Chassidim, on dit que c'est la raison pour laquelle le Rabbi a lancé les 10 campagnes de mitzvot. Les campagnes de Tfilin, Mezouza, etc. D'abord parce que le Rabbi sait que c'est des choses qui touchent particulièrement la génération. Et parce que c'est seulement des gens comme des tzadikim comme ça, que eux ils savent quels sont les mitzvot qui manquent à la génération.
Parce que malheureusement, je connais des gens, ça existe en France. Des gens, les pauvres, qui ne savent pas qu'ils sont juifs.
Bien sûr.
Ah, bah, encore une histoire, une femme qui la pauvre qui ne savait même pas qu'elle était juive.
Oui, bien sûr, je reviens comme ça.
Et là, je crois, il y a une sorte de. Ma femme racontait, elle a vu les chalotes, elle dit ah oui. C'est les rats qui ont mangé à la maison, que ma grand-mère a mangé. Elle s'est rappelée qu'après, ils se sont rendu compte qu'elle a pris une queue. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Quelle était Jules, elle ne savait pas.
Ah, j'en rencontre plein, on en rencontre plein comme ça.
C'est trucs de fou, ça. En Espagne, tu vas voir aussi.
Des gens, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont juifs, ou bien des gens qui savent qu'ils sont juifs, mais qui ne sont jamais venus à une synagogue.
Plein, j'en rencontre. Oui, c'est chose. Mais il y a des gens qui savent même pas qu'ils sont juifs. Ah bon, j'étais juif.
Ils ne savent pas,
ouais. D'accord. Donc, je reprends. Donc, si c'est une mitzvah qui doit être accomplie par le roi, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de la faire, c'est le roi qui va l'accomplir, et le roi va rendre quitte le peuple. Mais toutes les autres mitzvot, il faut les avoir accomplies au moins une fois dans sa vie. Ve'atam, pourquoi? Quelle est la raison? Kede, le albish, kol, tariag, prinot, ve'kochot, shebenafsho. Le Morazakin, il dit, c'est très simple, il dit, tu sais pourquoi il faut accomplir les 613 mitzvot? Parce que les 613 mitzvot correspondent aux 248 membres et aux 365 veines. Chaque mitzvah...
248,
ah oui. Chaque mitzvah correspond à un membre. Donc, il y a les membres physiques et les veines physiques, mais notre neshama aussi est composé de 613 morceaux, 613 conduits. Donc, chaque mitzvah a un conduit qui correspond à la neshama. Donc, quand la neshama arrive en haut, c'est comme un truc qui est illuminé, d'accord? Donc, tu vois tout de suite. Tu vois, ce bouton-là, il est éteint. Donc, on dit, hop, tu redescends.
Alors, est-ce que j'ai une solution? Je veux dire, c'est tout, tu prends, il y a une liste, des votes, hein, il existe une liste. Tu prends la liste des 1000 votes, les positives, et une par une, tu regardes si j'ai fait, tu les fais, mais ça, tu quittes.
Ah oui, mais le problème, c'est que
tu... Ah oui, enfin, tu peux les faire,
c'est ça. C'est qu'il y a des musées qui ne se présentent pas.
Oui, par le divorce, c'est comme ça qu'on peut pas...
Non, il y a plein de musées qui ne se présentent pas. Des musées compliquées. Voilà, comme tu as une mitzvah, t'as déjà renvoyé une fois la mère pour récupérer les enfants?
Ah oui, les oiseaux, ah oui, c'est vrai. Ah, il faut essayer de faire, ça, il faut essayer de... Enfin, bon.
Non, tu peux pas essayer. Si tu essayes de le faire, c'est pas bon.
Ah, il faut que ça. Ah oui, d'accord.
Il faut que ça t'arrive.
Ouais. Non, sachant que t'as pas. Donc c'est-à-dire que c'est pas pour toi.
T'as déjà rendu une trouvaille à quelqu'un?
Oui.
Oui.
Un juif.
Oui, j'ai jamais pris.
Non, mais est-ce que t'as déjà trouvé un objet et tu l'as rendu à son propriétaire? Parce que c'est mis à la Torah, ça.
Faut que je me rappelle, mais je suis en couille.
Hein? Prends la liste. Tu comprends pourquoi on fait les musées du Rambam maintenant le matin?
Non, mais c'est une question de la liste.
Il faudrait que tu viennes.
Oui.
Non, sachant qu'il y a une roquette sur la liste.
C'est le matin, 9h.
Ouais.
Comment on fait?
C'est quand même une
idée. Il y a l'école Beth Yaakov à Cometa.
Ah, ouais.
Mais en général, ça dépend. Soit je vais travailler direct, soit ça dépend. Là, bon, cette semaine, j'ai un chantier, donc je vais directement. Ou des fois, j'emmène la voiture aussi, mais quand je vais la voiture, c'est bon, je suis pas ici avant 9h, 9h15. C'est un peu tard.
Si tu peux, tu peux. Si tu
as. C'est bon, c'est bon. Tous les jours, quoi qu'il arrive.
Tous les jours.
Lundi ou vendredi, d'accord.
D'accord. Exactement. Alors, donc il dit maintenant, Ubi ou Achat me'ena lo nedara. Ça veut dire qu'il peut manquer aucune mitzvah. Pourquoi il peut manquer aucune mitzvah? Puisque la Neshama a 248 particules. Pardon, 613 particules. Donc on est obligé de s'occuper chaque mitzvah à sa partie de la Neshama qui lui correspond. Et ça, c'est le rôle des tzadikim. Quand tu as une personne qui est malade, ils vont te dire, fais cette mitzvah. Mais sans rentrer dans ce truc-là. Le Harizal va très simple. Le Harizal, il te dit, il y a 613 mitzvot, il y a 613 particules dans la Neshama. Les mitzvot du roi, elles sont couvertes directement. Mais toutes les autres mitzvot, faut les faire. Au moins une fois. Tant que tu ne l'as pas fait, le bouton il reste éteint. Et quand tu arrives en avec le bouton éteint, on dit, monsieur, il faut redescendre. Ça peut être le plus grand tzadik de la terre, qui a fait aucune avéra. La mitzvah ne s'est jamais présentée. Qu'est-ce que tu lui veux? Donc, j'ai pas de problème, tu redescends.
Donc il reste très peu de mitzvot dont la probabilité est très faible, en réalité.
Ah oui, on est à très très peu de mitzvot.
On est à l'histoire de l'oiseau, là, c'était un truc
vraiment... Par exemple, ça. Ouais. Et d'autres, ça représente quand même très très peu de mitzvot qui sont en probabilité relativement faible
très, très
à
peu,
réaliser. Ouais. Ça veut donc dire que pour beaucoup, ce sont les mitzvot qui sont manquantes.
Oui. Ça veut dire que tu peux avoir un juif que toi tu crois par exemple qui n'est pas religieux, mais en vérité peut-être que la mitzvah qui lui manque, il l'a déjà faite et donc il est déjà complet.
Ouais.
Mais ça, on n'a aucun indicateur nous pour le savoir. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut le savoir.
Mais non, si Akadosh Baruch Hu il te renvente ce monde, ça serait pas honnête, genre c'est bon, enfin, je veux pas de mal. Si tu es en train de faire la mitzvah par exemple de l'oiseau, il va dans un autre.
Regarde, je te donne un exemple. C'est comme tu as un général qui a envoyé ses soldats et il leur a donné 613 missions. Maintenant, après, ce que tu fais à part la mission, c'est pas mes affaires.
Toi, ta mission, c'est ça.
D'accord. Donc, on a fait, le soldat il est parti une fois. Maintenant, le soldat il est parti tellement de fois, il a déjà fait 612 missions. Tant qu'il n'a pas fini la 613e mission, on le renvoie. Maintenant, si au passage, entre temps, il a fait d'autres trucs, ça y est, c'est fini. Les autres missions, on n'en parle plus, c'est déjà fini. C'est-à-dire que la limite, il payera peut-être au Gaïdom pour ça, mais ça se réglera en haut, ça. On le fera pas redescendre pour ça. On le fait redescendre seulement s'il y a une mitzvah qu'il n'a pas encore accomplie.
D'accord.
Avec ça, on comprend le... comment d'un côté on est jugé en haut et d'un autre côté on doit redescendre en bas. Qu'est-ce qui fait qu'on doit redescendre en bas? Parce que c'est vrai, c'est une question. Si la personne, si tu dis qu'on doit redescendre en bas, qu'est-ce qui fait la nuance entre le Gaïdom en haut et le fait qu'on doit redescendre en bas? Pourquoi des fois on doit redescendre et des fois il y a Gaïnom? Des fois tu as des tzadikim qui n'auront pas de Gaïnom et ils doivent redescendre. Des fois tu as des Rechaïm qui ont un Gaïnom et qui ne redescendent pas. L'indicateur est là. Ça dépend, est-ce que la Neshama a déjà accompli sa mission ou pas? Maintenant je vais vous compliquer un peu les choses. Ce qu'on explique en Kabbalah, c'est au nom du Harizal aussi. Le Harizal il te dit que des fois, pour faciliter la tâche, Akadosh Baruch Hu, il va couper une Neshama en plusieurs particules.
Oui, ce qu'on dit, une Neshama, il y a 6 personnes. Il y a 6.
Plus que 6. Il va dispatcher plus, bien sûr, plus que 6. Il va dispatcher. Il va dispatcher une Neshama, comme ça, pour avoir plus de probabilité que la mitzvah sera accomplie.
Ouais. C'est-à-dire que. Donc c'est une Neshama incomplète.
C'est une Neshama
incomplète qui arrive.
Non, parce qu'on explique.
C'est une partie de Neshama.
C'est une particule Neshama, mais c'est comme la lumière. Que oui, la lumière, même si tu prends un morceau de la lumière, t'as déjà de la lumière.
Comme une bougie.
Comme une bougie.
Ok. Donc on considère que la partie est complète pour réaliser une
voilà. Vision. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début du cours? On a expliqué qu'il y a plusieurs endroits dans la Torah où on voit l'importance de l'étude de la halakha. Pourquoi? La halakha est comparée à la couronne de la Torah. On a expliqué que la halakha, apparemment, celui qui manque de respect à un maître de halakha, c'est très grave, plus grave que celui qui manque de respect à un maître en général. Pourquoi? On a expliqué aussi que celui qui étudie des halakhot tous les jours, des halakhot particulièrement, il a une assurance d'avoir le olam haba. Pourquoi des halakhot? Pourquoi pas le reste de la Torah? On a expliqué aussi que pour accomplir la mitzvah de limud à Torah tous les jours, il faut étudier un chapitre de halakha le matin, un chapitre de halakha le soir. Encore une fois, on parle de la halakha. Pourquoi la halakha? Ça c'était le thème de la question. Pourquoi la halakha? On a commencé à répondre, on n'a pas répondu encore. On a expliqué qu'en vérité, pourquoi on s'attache particulièrement à l'aspect pratique? Puisqu'en vérité, on doit tous faire 613 mitzvot. On est obligé de faire 613 mitzvot. Et si on ne fait pas les 613 mitzvot...
Et elles sont dans la halakha.
Et elles sont dans la halakha. D'accord, on n'a toujours pas répondu à la question. Ça ne change pas pourquoi c'est important d'étudier la halakha. Alors, on va sauter un petit peu maintenant, parce qu'après, il rentre dans des explications de Kabbalah. Alors, attends, je vais prendre ici. Ok. On va tourner la page. Parce que là, c'est vraiment compliqué. À moins que vous voulez... Quand vous voulez, c'est un peu compliqué. Vous voulez qu'on
fasse... Ah, toi qui, pas, toi le chef.
Moi, ça me dérange pas, mais c'est un peu compliqué. C'est mais vraiment de la Kabbalah...
En substance, tu peux dire ce que c'est ?
Oh, ok, je vous explique en substance, alors. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, d'accord ? Je vais prendre deux secondes, Youssef, hein. Je vais ouvrir une parenthèse, mais si vous... Voilà, on va ouvrir une parenthèse, mais si vous ne comprenez pas la parenthèse, c'est pas bien grave. De toute façon, la suite... Façon, nous, notre but, c'est de comprendre le sens de la halakha. Là, en fait, ce qu'il explique ici, pratiquement ces deux pages que je vais sauter, hein, il explique pourquoi on a besoin d'avoir des vêtements. Tu m'as dit que la Neshama a besoin de 613 vêtements, et que s'il manque un des vêtements, on ne peut pas. Donc il explique pourquoi la Neshama a besoin de ses vêtements, pourquoi la Neshama ne peut pas recevoir en direct, pourquoi elle a besoin de ses vêtements. Alors il dit comme ça. Il dit parce que, quand Akadosh Baruch Hu, il dit en vérité, ses vêtements, c'est comparé à des cheveux. C'est quoi un cheveu ? Un cheveu, pourquoi quand on coupe un cheveu, on a pas mal ?
Ah oui, il n'y a pas de contact.
Il y a de la vie dans un cheveu. La preuve, c'est qu'il pousse.
Ah, il y a de la vie à la racine après. Si avant, toujours.
Ah, mais j'ai compris, mais il y a de la vie. La preuve, c'est qu'il pousse.
Oui,
tiens, il vit. Il est humide. D'ailleurs, la preuve, c'est que.
Il n'est pas inerte.
Tu prends le cheveu, tu le coupes, d'accord ? Tu le laisses poser comme ça pendant quelques semaines, il va sécher. Ça sèche, hein, ça veut dire qu'un cheveu, c'est humide, un cheveu. Il y a de l'humidité. Comme tout, comme une plante. Exactement, comme une plante. Alors pourquoi quand je coupe un cheveu, ça fait pas mal ?
Parce que c'est pas énervé.
Et pas de nerfs qui vont.
Alors, en chassidut, on explique comme ça.
Juste au niveau de.
On dit parce que, en vérité, non, mais il y a de l'énergie dans un cheveu.
Non, j'ai pas dit qu'il y avait pas d'énergie. J'ai dit que.
Il n'est pas relié au nerf, en fait. Il est pas relié.
Le nerf ne va pas dans le long du cheveu. Il reste juste au niveau de.
J'ai compris, mais pourquoi si on me coupe un morceau de la peau, j'ai mal ? Il n'y a pas de nerf dans la peau.
C'est comme un ongle, si tu coupes un nerf.
Il n'y a pas de nerf là. Là, si on me coupe ça, si on m'arrache ça, j'ai mal. Pourquoi j'ai mal ? Il n'y a pas de nerf.
C'est énervé en dessous, bien sûr.
C'est en dessous, non ?
Oui, c'est énervé, d'accord. Bon. En tout cas, ce qu'il explique. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui change ? Ce qu'on explique en chassidut, c'est comme ça. On dit que. C'est pourquoi quand on coupe les cheveux, ça fait pas mal ? Pareil pour les ongles. Mm-hmm. Parce qu'on dit que les cheveux, c'est la notion de tzimtzum. Ça veut dire que. Il y a un peu d'énergie, mais la quantité d'énergie est tellement minime. Est tellement minime que ça te fait pas mal quand on coupe. Quand ça veut dire qu'il y a des nerfs en vérité dans les cheveux, il y a un petit peu, mais c'est tellement minime que du coup tu sens même plus quand on coupe, c'est-à-dire que tu sens même plus qu'on t'a arraché quelque chose. Mais quand même, quand on te tire, ça fait mal. Mm-hmm. D'accord ? Pourquoi ? Ce qu'il explique ici, il te dit parce que les cheveux, c'est la notion du tzimtzum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois, il y a des choses que si tu le prends à sa source, tu l'arraches à sa source, ça fait mal, parce qu'il y a trop d'énergie. Mais des fois, quand tu vas restreindre l'énergie, ça va faire moins mal. Il dit c'est la même chose. Il dit la Neshama n'est pas conçue pour communiquer directement avec Akadosh Baruch Hu. La Neshama ne peut pas communiquer avec Akadosh Baruch Hu directement. Elle exploserait si elle devrait communiquer avec Akadosh Baruch Hu. C'est une énergie qui est trop forte pour la Neshama. Elle est obligée de passer par des vêtements. Pourquoi elle est obligée de passer par des vêtements ? C'est quoi le rôle du vêtement ? Le rôle du vêtement, c'est de prendre la manière qu'Akadosh Baruch Hu veut communiquer, mais de la faire descendre en adaptant le concept. Par exemple, Dieu, il veut te faire passer un concept de la mitzvah des téfilines qui veut s'attacher avec toi. Donc, il va te faire descendre le concept, descendre, jusqu'à qu'à la fin, ça va être une peau de cuir. Mais finalement, au final, le concept reste le même. Seulement, c'est comme le cheveu.
C'est comme un transformateur électrique.
Exactement, c'est comme un transfo. Voilà, exactement, c'est comme un transfo. Ça veut dire qu'à la fin, moi, j'ai besoin de 12 volts. Mmh. Maintenant, si je prends directement à la prise, il va exploser mon truc, parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Donc, je vais le casser, mon truc. Donc, il faut un transfo. Les mitzvot, c'est comme les vêtements. C'est le transfo. Donc, ce qu'il explique ici, enfin, il explique ça en long et en large. Hein. Il dit que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il nous prépare au Olam Haba. Il nous prépare au monde futur. Il nous prépare à Mashiach. Quand Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu enverra une lumière spéciale. Une lumière qu'il y avait seulement à la création du monde, jusqu'au quatrième jour de la création du monde. Le quatrième jour de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a caché cette lumière pour les tzadikim. Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu veut qu'on accomplisse ces mitzvot ? Parce que chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on met une sorte de crème solaire, on va mettre un transfo qui va faire en sorte que lorsque Kadosh Baruch Hu verra cette lumière, on est immunisé. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un contact qui n'est pas immunisé, qui n'est pas protégé par un transfo, et tu exploses. Donc on est obligé de protéger tous les contacts. Et tant que tous les contacts ne sont pas protégés, Dieu ne peut pas envoyer ma chair. D'accord, vous suivez ?
Oui, c'est comme...
Ok, c'est comme quand tu fais de la plomberie et puis tu laisses un trou, et puis forcément, dès que tu mets l'eau, bah, il faut rendre tout étanche. Tout.
D'accord, c'est comme dans les circuits électriques. Si tu sais pas qu'il doit recevoir du 12 volts, c'est tous les circuits qui communiquent qui doivent recevoir du 12 volts. Si t'en as un qui envoie du 12 volts et l'autre qui envoie du 220, ça va exploser. Tu peux pas. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en a un qui est pas bon pour que tout saute. Il suffit qu'il y en a un qui est trop fort pour que tout saute. On est d'accord? Donc il dit c'est la même chose. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il sait que quand il va envoyer Mashiach, il va enlever le voile. Il va enlever la sorte de couche d'ozone, la sorte de couche qui protège le soleil, c'est-à-dire qui protège sa lumière. Il va tout dévoiler. Mais le problème, c'est qu'il faudrait s'immuniser pour être capable, avoir des bons transfos pour être capable de recevoir. Donc tant qu'on n'est pas immunisé, Kadosh Baruch Hu ne peut pas envoyer Mashiach. Donc voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu te dit, si tu n'es pas passé par une mitzvah, tu n'as pas ton transfo, tu dois redescendre sur terre pour avoir le transfo. Nettoyer la neshama, ça c'est on se débrouille avec ça. Mais chaque mitzvah amène un transfo. Chaque mitzvah permet d'immuniser, de protéger la personne.
L'écran total.
C'est
l'écran total.
L'écran
total. Quand tu prends la crème, tu vois.
La crème solaire.
Le bronzage. Et quand c'est composé pour sûr de pas brûler quoi.
C'est... Écran total.
Ouais.
Ça veut dire.
En fait, c'est une crème qui te protège
des choses pour brûler. Protection.
Quoi. Ah d'accord. C'est... Oui, c'est-à-dire que tu bronzes pas quoi.
Voilà. C'est ça. Ah, ouais, tu bronzes. Et...
Non, tu bronzes.
Ouais.
L'écran total.
Hein. D'accord. Donc c'est
ce que c'est. Ouais bon. C'est notre question.
Alors il dit comme ça, ici il développe encore autre chose, enfin il développe plein de notions, hein, mais bon, dans les mots c'est vraiment compliqué. Il développe plein de notions, il dit par exemple, il dit, c'est quoi la chose la plus forte qui existe chez un homme?
La volonté.
D'accord? Encore plus fort que la volonté.
Ah, je croyais qu'il n'y a rien de plus fort que la volonté.
Ah non, qu'est-ce qui est encore plus fort que la volonté?
C'est la volonté.
C'est le plaisir. Et c'est de ça que va découler la volonté. De quoi j'ai envie? J'ai envie de ce qui me fera plaisir. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont les plus fortes que tout. La volonté et le plaisir. Mais le plaisir, c'est le plus haut que tout. Vous allez voir pourquoi j'explique ça tout de suite. C'est pour ça qu'il te dit comme ça. Il te dit, par exemple, il te dit, est-ce que le plaisir est associé à un membre spécifique? Non. On voit que toutes les autres choses, par exemple, le toucher est associé à la main. La vue est associée aux yeux. Mais la volonté, est-ce que c'est associé à un membre spécifique? Non. Le plaisir, quand une personne est joyeuse, est-ce qu'il peut dire, c'est ma tête qui est joyeuse? C'est ma main qui est joyeuse. Non, c'est le corps entier qui est joyeux. Pourquoi? Parce qu'on estime que la chose la plus forte qu'a chez une personne, c'est quoi? C'est le plaisir. Mais c'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est ça ce qui va faire que je voudrais quelque chose. De quoi j'ai envie? J'ai envie de ce qui me fait plaisir. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si maintenant, j'ai quelque chose qui est trop fort pour moi, ça va me faire souffrir. Il amène l'exemple du soleil. Il dit, regardez le soleil, par exemple. Les gens aiment le soleil. Le soleil, ça nous fait plaisir. Mais si le soleil est trop fort, qu'est-ce qui se passe? Tu souffres. Ça veut dire que des fois, la nuance entre le plaisir et la souffrance peut être très fine. Vous voyez ce qu'il veut dire ici?
Oui. Ou bien, quand tu es frustré de ne pas atteindre le plaisir que tu cherches...
Voilà, exactement. Toi, tu as une souffrance. La nuance qu'il y a entre le plaisir et la souffrance peut être très fine. Et donc, ce qu'il t'explique ici, c'est quoi? C'est qu'il te dit que Akadosh Baruch Hu, il sait que quand Mashiach va venir, il veut nous préparer au plus grand plaisir qui va exister. Mais il sait que si on n'est pas immunisé... Ce plaisir va se transformer en souffrance. C'est pour ça que c'est écrit que quand Mashiach va venir, à Kadosh Baruch Hu, il va dévoiler le soleil, il va dévoiler la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière du soleil. Et c'est écrit que les tzadikim vont être guéris avec ça, et les réchaïm vont être brûlés avec ça. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas immunisés, ça va devenir une souffrance pour eux. Ceux qui seront immunisés, ça va devenir un plaisir pour eux. C'est-à-dire qu'on voit ici clairement comment la même chose peut procurer du plaisir à un et peut faire souffrir une autre personne. On voit ça très souvent dans la vie. Comment la même chose, pour une certaine personne, peut lui faire plaisir, pour une autre personne, peut lui faire souffrir. D'accord? Pareil, voilà, si je prends l'exemple du courant, puisqu'on en a parlé du courant. J'ai ici quelque chose qui a besoin d'une entrée de 5 volts. Ça, il lui faut du 5 volts. Mmh. D'accord? Donc, recevoir du courant, c'est un plaisir pour lui, il lui faut du courant. Mmh. D'accord? Parce que quand il reçoit pas du courant, il est pas bien. Donc, il est bien quand il reçoit du courant. Mais si tu lui envoies trop de courant, qu'est-ce qui se passe? Il explose. Donc, trop de plaisir devient une souffrance. Vous voyez l'explication? Trop de plaisir devient une souffrance. Donc, c'est ce qu'il explique ici. Il te dit, voilà pourquoi, à Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire toutes les mitzvot. Pourquoi toutes les mitzvot? Parce que finalement, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on va immuniser une particule de notre neshama à être capable de réceptionner la lumière quand à Kadosh Baruch Hu, on verra Mashiach.
Alors, une question. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que tu as accompli la mitzvah que tu as à faire, tu es mort ou bien tu poursuis la vie? Ah, c'est une bonne question là, qui a été posée il y a 2-3 ans, ça, mais...
Je sais pas. Mais en fait, il y a deux choses différentes. Chaque personne, quand il descend sur Terre, il a une mission.
Oui, la mission, sa mitzvah.
D'accord. Non, deux choses différentes.
Mais est-ce que après avoir...
Il y a une mission. Il a une mission, par exemple, de rendre service à quelqu'un. Il y a des missions. Chacun a sa mission. La mission, chaque Neshama a sa mission. À part ça, à part la mission de la Neshama, il y a un concept que chaque Neshama doit faire au moins une fois les 113 mitzvot.
Ah d'accord.
D'accord, c'est comme ça. Comme, je sais pas qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple. Voilà, on dit par exemple, on sait que quand un bébé il a des, tu sais les bébés pendant la première année, les docteurs disent que c'est bien qu'ils passent par plein de maladies parce que ça les immunise.
Ah oui, bien sûr.
Il faut qu'il passe une fois dans sa vie. Une fois qu'il est immunisé, après c'est bon, on sait qu'il est immunisé, après il peut y aller pour toute la vie. C'est comme ça. Après il aura une mission dans sa vie, tu sais pas ce qu'il fera dans sa vie après. Mais les 613 mitzvot, c'est pour immuniser la personne. À part ça, t'as une mission. Une mission dédiée à chacun, ça c'est autre chose. Là, on veut expliquer pourquoi c'est important que chacun passe au moins une fois dans sa vie par les 613 mitzvot. C'est pour ça que le Rabbi dit comme ça. Le Rabbi dit aujourd'hui, notre génération, avec toutes les mitzvot qu'on a fait, on est une génération qui mérite Mashiach. C'est-à-dire que normalement, Kadosh Baruch Hu, Alpidine, doit nous envoyer Mashiach. Le monde a déjà accompli sa mission. On a déjà accompli notre mission. Pourquoi Mashiach n'est pas là? Parce qu'on n'est pas assez prêt à sa venue. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez prêt à sa venue, ça veut dire qu'on a certains contacts qui ne sont pas immunisés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Faut se dépêcher vers
la mission. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'accord? Il y a une première chose, c'est la mission qu'on a sur Terre, chacun a sa mission. Mais ça, a priori, la mission générale du monde est déjà finie. Chacun a encore sa petite mission, mais la mission générale est déjà terminée. Maintenant, ce qui nous manque à nous, c'est quoi? Ce qui nous manque, c'est immuniser les derniers contacts. D'accord? Les protéger. De faire en sorte que quand il y a le gros courant qui va arriver, ça va pas exploser. Il faut les sécuriser. C'est ça ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc c'est pour ça que des fois, quand on va aller voir un juif, on va lui proposer de mettre les tefillin, de mettre la mitzvah, des fois c'est peut-être la mitzvah qui lui manquait. On ne peut pas savoir. Peut-être que cette mitzvah, il ne l'a jamais faite. Imaginez un juif, par exemple, il était religieux toute sa vie, mais sans le savoir, il a mis des tefillin pas cachères toute sa vie.
C'est pas arrivé, non?
Ben oui. Quand il arrive en haut, qu'est-ce qu'on lui dit?
T'as pas mis les téfilines?
T'as pas mis les téfilines?
Ah si.
Ah non.
On les compte pas quand on met...
Ah non, pas mis.
Ouais, non.
C'est pas juste ça. Ils sont pas cachés. Ils sont cachés, mais aussi mauvais que ça, non?
Non, c'est pas mauvais.
Non.
Il doit redescendre.
Écoute,
on dira pas qu'il aura un gay homme. Il aura pas de gay homme.
Selon la halakha, il a pas mis.
Il faut pas... Regarde.
Ah bon?
Bien sûr. Il faut pas mélanger deux choses. T'as une première chose qui est la mission de chacun. Ça, la mission de chacun. Regarde. Imagine-toi ce juif qui était religieux, qui a jamais eu l'occasion de faire vérifier cette filine. Bon. D'accord. Il ne les a pas fait vérifier, ou ils sont devenus pasoul, il ne s'est pas rendu compte.
Oui,
et, bon, il croyait que c'était cachère. Ouais. Peut-être le juste faire, que ça.
Oui, c'est pas
le se faire, il se trompait.
Oui.
Voilà. D'accord, ça ne s'est pas arrivé. Un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il va arriver en haut. Est-ce qu'on le verra au gay homme pour ça? Non.
Mais il peut être jugé, il peut se défendre, je dis, attends, je m'excuse.
Il va se défendre, on ne l'enverra pas au gay homme. Il n'y a pas de problème. On lui dira à coup de circonstances atténuantes, mais il doit redescendre.
Il n'a pas fait la mitzvah.
Parce qu'il a fait la mitzvah. Ça n'a rien à voir. La mission spécifique que chacun a, ça, chacun a une mission pour aider les uns sur Terre, mais à part ça, il y a une autre notion qui est que chaque Neshama doit faire un tour des 613 mitzvot, au minimum. Après, le reste, c'est des détails.
Ça peut sembler pas juste, mais oui, c'est la loi.
C'est comme ça.
D'accord.
On est d'accord?
Tu as une équipe de foot, par exemple, qui a très bien joué, et aux dernières secondes, ils prennent un but bête. Ouais. Ils ont très très bien joué tout.
Donc, ah oui, c'est
injuste,
oui,
ils étaient perdus. Mais au final,
ils ont perdu quand même.
Bien sûr.
Mais la notion des mitzvot, c'est pas ça. C'est-à-dire que t'as la notion que tout le monde, t'as la notion comme on a expliqué qu'on va nous juger sur la majorité des mitzvot ou d'Averot. Mais à part ça, t'as une notion que chaque Neshama doit passer au moins une fois par la mitzvot. Comme ça, c'est un bizutage, comme ça. Il faut passer par la mitzvot. C'est obligé. C'est pour protéger la Neshama, pour immuniser la Neshama. Et tant que toutes les Neshamas du monde ne sont pas passées par toutes les mitzvot, ça ne va pas venir.
Un passage obligé.
Un passage obligatoire. C'est comme ça. C'est pour protéger les circuits de la Neshama. C'est obligatoire. Le fait d'être passé une fois par la mitzvah, ça va créer le cheveu. Le cheveu qui va permettre de... Le radar qui va permettre de réceptionner la lumière sans se brûler. C'est comme ça. Tu peux rien faire. D'accord? Bon, du coup, je voulais avancer là-dessus, mais c'est déjà là. On n'aura pas le temps maintenant. D'accord. Donc on n'a toujours pas vraiment répondu à la question.
Ah oui, il n'y a aucun rapport avec
D'accord. Non, on n'a pas répondu à la question. la question qu'on a posée au début du cours, c'est pourquoi c'est tellement important d'étudier la halakha.
Et de respecter.
Alors, pour répondre à cette question, on a expliqué la notion des 613 mitzvot. Pourquoi les 613 mitzvot c'est important, etc. Mais on n'a toujours pas répondu, d'accord, on n'a toujours pas expliqué quel rapport avec pourquoi c'est important d'étudier, c'est important d'étudier particulièrement la halakha. Ça, on verra la semaine prochaine, si Dieu.
D'accord,
ça, on verra la semaine prochaine. Okay. Au moins, aujourd'hui, ce qu'on a vu bien développer, c'est la notion des 613 mitzvot, comment chacun de nous devait passer par les 613 mitzvot, et ça, c'est très important. Ce qu'il expliquera la semaine prochaine, ce qu'on expliquera la semaine prochaine, c'est que quand on étudie la halakha, on travaille justement sur ce cheveu. On travaille sur ce cheveu et on le peaufine. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. D'accord ? Très intéressant quand même d'expliquer. Que le fait même d'étudier la halakha, même si on ne l'accomplit pas, ça rejoindra peut-être un peu ça ce que j'ai dit tout à l'heure, que le fait même d'étudier la halakha, eh ben ça va améliorer encore une fois ce contact, ce transfo. T'as un transfo qui est là, et le fait même d'étudier la halakha, c'est pour ça que c'est très important d'étudier la halakha, parce que tout est dedans.
Donc il faut lancer un coup de la halakha. Non ?
On en a tous les matins, je t'ai dit. Hein ?
Non, c'est fou, le matin, d'accord. Et tu fais pas un enregistrement où on peut récupérer
Non, le matin, j'enregistre pas, non. Mais sinon, on étudie aussi le Shabbat d'après-midi, on fait la halakha.
Oui.
C'est beaucoup d'alakha. C'est beaucoup d'alakha. D'accord ?
C'est-à-dire que, genre...
Genre quoi ? Non, le reste, c'est important !
Attention,
le reste, c'est important. J'ai pas dit que le reste...
Il faut respecter Shabbat, faire Pessah, enfin tout est important. Manger cachère, d'où ?
Tout est important. Mais c'est important d'étudier l'alakha, parce qu'on a expliqué en vérité que c'est comme le mitzvot, ça veut dire qu'il y a un passage obligatoire.
D'accord.
D'accord ? On continue la semaine prochaine.
D'accord.